maintenant ce journal avec du Var.
Et oui, la troisième et dernière épreuve de la Tahiti Nuiva s'est achevée il y a tout juste quelques minutes sur le plan d'eau de Mahina. Après une course mémorable longue de 50 km, c'est finalement le team Shell qui a réussi à arracher la victoire. EDT termine deuxième, mais avec ses deux victoires lors des deux précédentes étapes, il remporte cette dixième édition de la Tahiti Nuiva. On retrouve tout de suite en direct de la Pointe Vénus notre correspondant Alex du magazine Va News.
Oui.
Alex, bonjour.
Bonjour Tamara, bonjour à tous. Eh bien, effectivement, la dixième édition de la Tahiti Nuiva vient de s'achever avec un épilogue dantesque, une course vraiment qui aura été exceptionnelle durant trois jours. Les rameurs n'auront absolument rien lâché. Je le disais dans les journaux précédents, rien n'était joué encore ce matin au départ, puisque 2 minutes 46 séparaient le team EDT de son poursuivant direct, à savoir Shell Vaha. Eh bien, on a eu encore aujourd'hui du très très grand spectacle. C'est Shell qui est sorti très rapidement dès le départ, prenant plus d'une centaine de mètres d'avance. EDT bien évidemment et OPT n'étaient pas en reste. Relativement à l'écart, ils se sont on va dire qu'ils ont pris le temps de revenir petit à petit. Ils ont marqué donc Shell, et ensuite c'est un mano à mano qui a duré pendant presque 2h30 en team EDT Vaha et Shell Vaha, pour que à peu près une heure de l'arrivée, au terme d'un changement un petit peu mouvementé, Shell a pris les devants, prenant rapidement 50 mètres, puis 100 mètres, puis 200, 300, jusqu'à 600 mètres d'avance sur EDT. C'est alors que au terme d'un effort, on sait qu'ils sont très très forts, les rameurs de EDT, et au terme de cet effort magistral, ils sont revenus, ils ont grappillé les secondes et les mètres un par un pour un finish qui laisse malgré tout la victoire, une très très belle victoire d'étape à Shell Vaha, qui se sera battu jusqu'au bout, mais qui au final, au cumul de temps de ces trois étapes, laissera la victoire, ce 20e anniversaire au club organisateur EDT Vaha. Donc cette 10e édition s'achève avec la victoire au général donc de EDT Vaha devant Shell Vaha, puis le team OPT en 4e position, une très très belle place de paddling qui avait à cœur de pouvoir monter sur le podium. Malheureusement, et encore une fois, c'est une très 4e place qu'ils arrivent à décrocher. En 5e position, Rina Raulea, 6e Aloué, 7e Pire, 8e RTT, 9e Maina Hoé et 10e la CPS. Là pour le classement général chez les hommes, à noter donc chez les vétérans, la victoire d'étape pour EDT Vaha, mais au général c'est Taishan Ohana qui l'emporte à peu près 30 secondes sur ce team de EDT Vaha. Chez les femmes, victoire du team OPT, en catégorie mixte, victoire de Beachcomber Vaha, et chez les juniors, là aussi le spectacle a été au rendez-vous, puisque depuis le départ, c'est-à-dire depuis la plage de Tautila jusqu'à à peu près 30 mètres de l'arrivée, Shell Vaha et Mawatamaiti No Papara se sont livrés un combat digne de la catégorie senior, et au final ce sont les juniors de Shell qui l'emportent. Donc voilà ce que l'on pouvait dire pour cette 10e édition, ce 20e anniversaire de la Tahiti Nui Vaha. De mémoire, j'avais encore jamais vu un tel spectacle. On l'a eu sur la première étape, ce combat entre les trois équipes pendant près de 5 heures, et là sur cette dernière étape, un mano à mano entre les deux premiers, avec une très très belle victoire de EDT Vaha qui fête là un magnifique 20e anniversaire.
Merci beaucoup Alex pour toutes ces précisions. Et bon après-midi, je vous le rappelle, l'ambiance est à la fête cet après-midi à la Pointe Vénus. La remise des prix aura lieu à 14h et toutes les photos seront bien sûr à retrouver sur le Facebook de Vaha News.
Bon, la virgule, on l'a déjà eue.
Voilà, on l'a eue.
Le constructeur de parc aquatique Aquatica et Tahiti Nui Travel se sont entendus sur un partenariat.
Et oui, alors qu'une convention de partenariat et d'investissement a été signée jeudi avec les propriétaires du golfe de Tem'e et que les projets concernant le site de Hiti Mahana se précisent, la société Tahiti Paradise Park, nouvelle filiale locale du constructeur mexicain de parc aquatique Aquakita, a signé ce matin une convention de partenariat avec l'agence de voyage Tahiti Nui Travel. Les deux parties ont planché toute la nuit pour mettre sur pied ce contrat. Interrogé ce matin, le responsable de Paradise Park, Patrick Genet, explique que sa société compte sur Tahiti Nui Travel pour acheminer en Polynésie sa clientèle sud-américaine.
On compte avec Tahiti Nui Travel sur le fait de pouvoir, qui lui, achemine nos touristes. Parce que nous les avons. au Mexique. Nous avons des couples, les Latins, la clientèle jeune mexicaine, je dirais sud-américaine, aujourd'hui voyage avec ses enfants. Ce sont des Latins. C'est une clientèle qu'on connaît pas ici. Voilà. Tahiti Nui Travel, on va lui apporter des chambres, on va lui apporter beaucoup de choses et lui va nous apporter des clients.
Les détails de ce contrat restent pour l'instant confidentiels. Reste que l'on sait que les projets d'Aquaquita sont de grande ampleur. Pour le golfe de Montréal, la société mexicaine prévoit la construction d'un hôtel pour un investissement global de plus de 7,2 milliards de francs. Et concernant le parc aquatique de Marina, qui est encore au stade de projet, les dirigeants parlent d'une zone de plus de 7 hectares et d'une capacité d'accueil de plus de 2000 personnes par jour. Alors, certains lèvent déjà les yeux au ciel et considèrent qu'il s'agit de projets utopistes. Faux, répond Patrick Genet, qui affirme qu'Aquaquita ne va pas construire et attendre que les touristes arrivent. C'est elle qui les fera venir, elle en a les moyens.
Nous sommes des spécialistes du tourisme aussi. Aquaquita, c'est les quatre plus gros tour opérateurs d'Amérique du Sud. Aquaquita, c'est des actionnaires comme M. Carlos Slim, qui possède une bonne partie de la compagnie Mexicana. Nous avons des actions dans Viarig, nous avons des actions dans Aerolíneas Argentinas. On sait ce que c'est que de faire du tourisme. On gère 90 hôtels. On a l'intention de devenir un acteur important sur le marché polynésien. Voilà.
Et d'ailleurs, la société mexicaine n'en finit plus d'envisager des projets en Polynésie. Sachez qu'elle étudie en ce moment la construction d'un autre complexe qui comprendrait un golf, deux nouveaux hôtels et un mini-parc. Il serait situé sur une île de l'archipel des îles sous le vent qui ne serait pas Bora Bora. C'est tout ce qu'on sait pour l'instant.
Autre projet, celui d'une route traversière qui revient sur le devant de la scène.
Oui, hier matin, le leader indépendantiste Oscar Temaru, accompagné de la délégation chinoise Jiang Jing, s'est rendu à Tayarapu pour exposer au Tavana de Hitiautera, Tayarapu Est et Ouest, un nouveau projet de route traversière. Elle partirait de Fa'a pour rejoindre Taravao par le centre de l'île. Alors même si cela fait plusieurs années que l'idée d'une route traversière est née et n'a jamais été concrétisée, le Tavana Oscar Temaru est confiant.
C'est un projet qui est encore loin de sa mise en forme, hein, parce que il faut voir, il y a des travaux de cadastrage à faire, mais ça intéresse tout le monde, aussi bien la zone urbaine que tous ceux de la presqu'île.
Vous êtes confiant?
D'un côté, il faut dire que sur le plan financier, ils ont ce qu'il faut. Sur le plan technique, ce sont les meilleurs au monde. Donc, ce sont déjà deux atouts. Et maintenant qu'il y a le soutien de tous les Tawanas de Tayarapu Est et Ouest, donc il faut faire avancer ce projet.
Et est-ce que vous avez vu le gouvernement par rapport à ce projet?
Oui, bien sûr, nous nous sommes rencontrés hier soir. Monsieur le Président Fitch les a très bien reçus. Et dit également qu'il ne faut pas penser qu'à Fa'a, il faut penser aussi à d'autres communes de la Polynésie et à toute la Polynésie.
Mais Patrice Jamais, le Tavana de Tayarapu Est estime qu'il faut trouver une solution pour désenclaver Tayarapu qui ne soit pas au détriment de la population ni de l'environnement. On l'écoute.
Nous allons effectivement demeurer attentifs. Vous avez soulevé les craintes de la population quant à ces différents projets. Mais toujours est-il, aujourd'hui, il faut trouver une solution pour désenclaver Tayarapu, parce qu'il y a quand même une demande aujourd'hui, et en particulier ceux qui ont besoin d'aller en ville pratiquement tous les jours, ne serait-ce que dans le cadre de la profession. À côté de ça, il y a aussi des besoins à satisfaire au niveau de nos enfants qui poursuivent des études, ne serait-ce qu'à l'université, où ils sont obligés aujourd'hui de se lever vers 3h du matin. Alors, d'un côté, ils sont fatigués, ils sont pas si productifs que ça. Mais je pense que on a besoin de savoir en quoi consiste le projet en lui-même. Le détail, il y aura donc une étude qui sera lancée par la délégation. Je pense qu'il y aura aussi à côté de ça une étude d'impact et à partir de là, apporter un jugement sur le projet qui serait avancé.
Ces interviews ont été réalisées par Vaïté Ourache et Pambrin.
Une pause dans ce journal et on parle entre autres grève juste après.
Cette grande chaîne thématique et plein de sports aussi.
Des documentaires.
Des chaînes pour les enfants.
Et la TNT, bien sûr. 3 chaînes cinéma.
200 films à la demande.
60 nouveaux films par mois.
Ouais, il y a même plein de films récents en location.
Mon vidéoclub à la maison.
La télé du futur.
Il y a à partir de 3900 francs par mois.
Seulement.
Sans engagement.
Divise, déchaînez-vous.
Plus de renseignements sur divise.tv ou au 40 50 10 10.
Extra, c'est extra, extra.
La lessive extra.
Extra, c'est le lavage malin.
Extra, les yeux pour tout votre linge.
Extra, moins cher, ça c'est bien.
Avec tes pots de bonnet.
Extra,
efficace à toute envergure.
Extra,
couleur blanc et les couleurs.
Extra,
efficace, économique et pour toute la famille.
Retrouvez le nouveau Extra 2 en 1 avec adoucissant dans votre magasin.
La lessive Extra, c'est extra, extra.
Extra, la lessive du Fénois.
Radio 1, premier sur l'info.
Retour au journal, Tamara. Et un homme qui accostait des petites filles à la sortie de l'école a été arrêté par la DSP.
Oui, souvenez-vous, il y a quelques semaines, le commandant de la DSP, Loïc Hennus, était intervenu publiquement dans les médias pour calmer les rumeurs qui circulaient autour d'un prétendu enlèvement d'enfants devant une école de papeété. Il n'en était finalement rien, mais cette histoire partait tout de même d'autres faits bien réels. Le mois dernier, un jeune conducteur avait proposé à une petite fille de 10 ans qui attendait devant son école à Taonoa de monter dans sa voiture. La petite avait refusé et avait ensuite alerté ses parents et la direction de son école. Quelques semaines plus tard, les policiers de la DSP ont fait le lien avec deux autres plaintes assez similaires et dans la même zone géographique. Cette fois-ci, deux fillettes avaient été abordées par un automobiliste qui avait demandé à l'une d'entre elles de baisser sa culotte. Les policiers ont donc effectué des surveillances aux abords de l'école et ils ont identifié un homme correspondant au signalement donné par les trois fillettes. Jeudi, celui-ci a été convoqué au commissariat. Il s'agit d'un homme de 31 ans, perturbé psychologiquement. Un homme qui a reconnu avoir apostrophé les trois enfants sans véritablement expliquer son comportement. Jeudi, le suspect a donc été placé en incarcération provisoire. Il sera jugé mardi prochain en comparution immédiate pour tentative de soustraction d'enfants et tentative d'atteinte sexuelle sur mineurs.
On parle des grèves maintenant. Il paraît que c'est la saison. Nous avons demandé son avis au politologue Semir Alouardi.
Hôpital du Taonnet, CPS, OPT, APRP, depuis le début de l'année, le Fénois a fait face à plus d'une dizaine de mouvements sociaux. Certains ont été tués dans l'œuf, comme celui du port autonome ou encore celui de la dépêche de Tahiti, mais d'autres ont duré plus de 40 jours, comme à l'huilerie de Tahiti. Le politologue Semir Alouardi analyse les mouvements sociaux en Polynésie en trois strates. La strate syndicale, où chacune des centrales compte ses adhérents. La strate politique, où le conflit entre Gaston Flos et le président du gouvernement Édouard Fritsch peut se retrouver dans les luttes syndicales. Et enfin, il y a la strate des grévistes qui, malgré leurs souffrances, ne sont pas conscients de ce qu'il y a largement au-dessus d'eux.
Quelqu'un qui fait une grève, il a réellement des souffrances, des revendications. On ne peut pas lui nier cela. Ensuite, il y a la deuxième strate, qui est la strate syndicale, où il y a des périodes où les syndicats doivent se compter plus qu'à d'autres, c'est-à-dire lorsqu'il y a, par exemple, des élections, etc. Quand il y a des nominations qui vont se faire, par exemple, au Conseil économique, etc. C'est-à-dire qu'il y a aussi des intérêts au niveau des organisations syndicales. Et enfin, la troisième strate, c'est-à-dire la strate politique, c'est évidemment le conflit qui oppose le président Flos et le président Fritsch. Eh bien, ce conflit peut se retrouver dans les luttes syndicales. On l'a vu, hein, que ce soit avec Oscar Temaro, que ce soit avec Assos Tonsong. Voilà. Alors donc, il y a ces trois strates qu'il ne faut pas négliger. Et il faut comprendre que les gens de la première strate, eh bien, ne sont pas ou ne veulent pas, et je comprends très bien, ne sont pas conscients de qu'est-ce qu'il y a bien largement au-dessus d'eux.
Certains disent que ces mouvements sociaux sont plus ou moins téléguidés. Vous en pensez quoi ?
On peut pas dire que c'est véritablement téléguidé dans le sens où on peut pas reprocher aux gens de faire grève, mais que forcément il y a une dimension politique aux grèves que l'on connaît en Polynésie française. Alors le tout est de savoir quelle est la dimension.
Le politologue Semir Alouardi répondait aux questions de Vaïté Ourari Pambra.